Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge, l'Algérie s'embrase. Des terroristes ont opéré en divers points du territoire algérien, titre le journal d'Alger. 8 morts sont dénombrés. 2 militaires sont tués à Batna, au pied des monts Aurès. Les Monoreaux, un couple d'instituteurs en voyage de noces, sont massacrés dans un car en compagnie du caïd Ben Hadj Sadok. Un Français est retrouvé mort dans la région de Mostaganem, tout comme un gardien de nuit musulman à Dra El Mizan en Kabylie. À Kenchala, petite ville située au nord des Aurès, un lieutenant de Spahi est tué à son réveil. C'est la Toussaint Rouge. En 1945, parti de Sétif, la révolte n'a pas dépassé les Kabylies. Cette fois, toute l'Algérie est menacée. Outre les homicides, les dégâts matériels sont considérables. Les incendies font rage. La coopérative de Boufarik dans l'Algérois est en flammes. D'autres foyers sont signalés à la Selounaf des Baba Ali, dans les entrepôts d'Alpha d'un village de la Mitidja. Le Constantinois et les Aurès sont également touchés par les exactions. L'attentat le plus spectaculaire échoue. Des charges explosives disposées à Alger dans l'entrepôt de pétrole Mori. Les cuves sont assez solides pour résister à l'explosion. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, dépêche en Algérie 3 compagnies de CRS. Le maire d'Alger, Jacques Chevalier, secrétaire d'État à la Défense du gouvernement de Pierre Mendès France, demande le renfort de 3 bataillons de la 25e division parachutiste. Au terme de la journée du 1er novembre 1954, les autorités constatent que la plupart des attentats ont manqué leur cible. Madame Monoreau est seulement blessée. L'attaque contre Batna échoue. Les 5 attentats prévus à Alger tournent court. Les bombes sont insuffisamment puissantes pour faire sauter l'usine à gaz, l'immeuble de la radio et le central téléphonique. Seul le dépôt de pétrole connaît quelques dommages. Enfin, les partisans algériens de l'Orané ne réceptionnent que les caravanes d'armes acheminées par le Maroc. Pourtant, depuis début août 1954, les responsables de l'insurrection algérienne préparent minutieusement leur affaire. Les conjurés sont de jeunes militants issus du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, constitué le 10 juillet, 10 jours avant la signature de l'armistice en Indochine. Zoubir Bouadjadj, un ancien adepte de la cause, est recruté par Mourad Didouche, le responsable de la zone du Nord Constantinois. Mourad Didouche est lui-même le fidèle lieutenant de Mohamed Boudiaf, qui transmet la liste des conjurés au Caire, où s'est réfugié Hamed Ben Bella. Les Kabylies sont aux mains de Belkacem Krim et Rabah Bitat se charge de l'Algérois. Les combattants reçoivent des consignes très fermes. Ils doivent s'attaquer aux colonialistes et non aux Français. Ils doivent à tout prix éviter de tuer des civils. Ordre leur est donné de respecter les personnes. Le 1er novembre est choisi pour sa portée symbolique. C'est pour les Européens catholiques la fête de tous les saints. C'est la période des congés scolaires. L'insurrection a ainsi un plus grand retentissement. Elle alerte l'opinion algérienne et les politiciens musulmans qui tournent autour du pharmacien de Sétif, le modéré Ferhat Abbas. Ces non-violents partisans de la méthode légale sont débordés par un groupe inconnu de terroristes qui organise des attentats sur 30 points différents du territoire algérien. c'est une véritable surprise. Elle n'est pas moindre pour les Français qui voient dans les attentats la main du Caire. Cette thèse de la machination égyptienne est assez bien reçue à Paris, que Radio Le Caire annonce le matin même avec une stupéfiante précision, la liste des attentats semble une preuve parfaite. Nul ne peut imaginer que le représentant du Front de Libération Nationale, le FLN au Caire, a été averti de l'opération quelques heures seulement avant son déclenchement et que son rôle est de porter les faits à la connaissance de l'opinion mondiale sur les ondes de la Voix des Arabes. De ce point de vue, l'insurrection est une parfaite réussite. La presse mondiale alertée fait de larges échos à la Toussaint Rouge. Nous allons poursuivre cette émission avec la chronique littéraire « Un jour, trois livres » qui va vous être présentée par Emmanuel. Mais avant cela, une pause musicale. C'est Léo Ferré qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1961, « Joli môme ».
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. Et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli môme.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire Un jour, trois livres, vous est présentée par Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous. Donc je vais commencer par le lit d'Aliénor de Mireille Calmel aux éditions XO. Voici réédité le premier best-seller de Mireille Calmel, écrit il y a 20 ans, et vendu à plus d'un million d'exemplaires. Les éditions XO parallèlement proposent une adaptation en bande dessinée et une édition collector accompagnée d'illustrations. Nous nous retrouverons à Poitiers en 1137. Aliénor d'Aquitaine, yeux verts, cheveux d'or, tempérament de feu, trépigne d'impatience. Loanac de Grimwald, 15 ans, descendante de Merlin, fait son entrée à la cour aujourd'hui. Un peu fée, un peu sorcière, celle-ci est envoyée par les siens pour faire en sorte que la jeune duchesse épouse Henri, le futur roi d'Angleterre. Entraînée dans un tourbillon de fêtes, Loana noue une tendre amitié avec Aliénor, mais le destin va contrarier ses plans. À la suite d'une traîtrise, Aliénor est donnée en mariage à Louis VII. Loana va alors la suivre à la cour de France, car tant qu'Aliénor ne donne pas d'héritier mâle à Louis, sa destinée de future reine d'Angleterre reste tracée. Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel aux éditions XO. Nous poursuivons par Les exilés de Byzance de Catherine Hermarie Vieille aux éditions Albin Michel. Le 29 mai 1453, Constantinople, dernière capitale de l'Empire romain d'Orient, après près d'un mois de terrible siège, tombe devant les armées de Mehmed II. La fière cité qui a résisté pendant plus de 1000 ans à tous les assauts s'effondre sous la violence de l'offensive turque. Jusqu'à l'intérieur de la basilique Sainte-Sophie, le peuple se défend avec ardeur et fièvre. Mais les vainqueurs n'épargnent ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Deux frères, Nicolas et Constantin Dionous, parviennent à s'enfuir, l'un vers la Russie, l'autre vers les rives de la Méditerranée. Ils se font le serment qu'un jour, leurs descendants se retrouveront. Et nous allons suivre le destin de cette famille divisée pendant 5 siècles, famille en quête de ses racines, méprise dans les turbulences de l'histoire. Ils se retrouveront le 29 mai 1953 dans la basilique de Sainte-Sophie. Les exilés de Byzance, Catherine Hermarie Vieille, aux éditions Albin Michel. Et nous terminons par la 6e enquête de Léandre Lafargue, Les écuries de Diomède, que nous retrouvons, Léon Lafargue, avec grand plaisir. En 1857, sous les encouragements de la foule, Napoléon III, son épouse l'impératrice Eugénie et le grand-duc Constantin viennent inaugurer l'hippodrome de Longchamp. Et cela le 27 avril 1857. Or, Léandre vient d'être sollicité par Rodolphe Issy-Volny, ancien inspecteur de la Sûreté, déjà croisé dans les balles des Muscadins, Volny qu'il déteste. Issy-Volny, policier déchu, est chargé d'une enquête en apparence toute simple. Son meurtre lors de l'inauguration d'Andre et son adjoint dans une enquête de vol, de meurtre, de trafic de chevaux et de rapt d'enfants. Ses investigations le mèneront du milieu hippique à celui du cirque qu'il infiltrera pour résoudre son enquête. Les écuries de Diomède, une enquête de Léandre Lafargue, de Sylvain Larue, aux éditions De Boré, collection Vent d'Histoire.
Merci beaucoup Emmanuel pour ces comptes rendus de lecture. Nous vous retrouvons très prochainement dans cette émission Historama qui touche à sa fin. Merci à Lucas de l'avoir présenté. C'est avec Léo Ferré que nous allons nous séparer. Léo Ferré qui a si bien chanté Paris, il nous transporte du côté de Saint-Germain-des-Prés pour une chanson de ses débuts. Nous sommes en 1954.
J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé pour courir le guilledou près de la Seine. Souvent, on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarader chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs teints blêmes. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés bien des rêves. Quand même, il parle le latin et non plus fin. À Saint-Germain-des-Prés. Thank you.